Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, Radio Campus Grenoble prend les rênes pour cet Univox, avec aux commandes Lucas. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet défini comme obscur, mais au cœur de la vie étudiante, les inégalités sociales. La période de pandémie a permis de mettre en évidence des inégalités structurelles et une quasi-décomposition du corps étudiant. Ces composantes inégalitaires ne sont réellement conscientisées que depuis peu, 10 mois environ depuis le début de la crise. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans leur ouvrage nommé « Reproduction » de 1970, ont déterminé que le système scolaire, à défaut de donner des clés aux élèves, était une zone où les inégalités sociales et familiales étaient reproduites, voire exacerbées. L'accès à l'éducation, bien que largement répandu grâce à son côté obligatoire dans notre République, n'est pas exempt de défauts ni d'inégalités. Dans la conception générale, l'école est vue comme un ascenseur social. Les études supérieures sont pour beaucoup perçues comme l'objectif absolu de réussite. C'est une période d'investissement matériel et personnel, pour certains nécessaires, pour d'autres obligatoires. À travers les retours des principaux concernés et membres de l'enseignement, nous allons voir si et comment les inégalités sociales et éducatives se reproduisent au sein du milieu des études supérieures, notamment en cette période de Covid. Pour introduire ce thème, nous allons d'abord nous tourner vers les étudiants à travers un petit micro-trottoir. Pensez-vous qu'il y a des inégalités d'un point de vue scolaire et éducatif au sein des études supérieures ?
Oui. Ah bah oui. Oui, absolument. Quoi ?
Comment ? Lesquelles ?
Déjà, si tu arrives avec un certain bagage du fait de l'environnement familial et autres, forcément tu viens avec quelque chose en plus, quoi. Et ça, plus tu avances dans les études et plus l'écart il grandit. Enfin,
Même par rapport au la manière dont vivent les étudiants. Il y a des personnes qui ont les moyens et qui n'ont pas forcément besoin d'aller travailler à côté. Et donc, ils peuvent mettre plus de temps dans l'apprentissage de leurs devoirs, en fait, ou de la réalisation de leurs devoirs, alors que d'autres, c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse.
Déjà, on n'a pas tous le même accès au logement. Il y a certains étudiants qui sont vraiment en difficulté. Je sais que quand j'étais en L1, j'avais des étudiants dans ma promo qui vivaient dans des squats, des trucs comme ça. Donc, ils ne pouvaient pas forcément rentrer chez eux, avoir une connexion, pouvoir bosser facilement. Il y a déjà l'accès à la nourriture aussi. Dernièrement, c'est devenu assez compliqué. Il y a beaucoup d'étudiants déjà qui vivent seuls, qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller faire leurs courses avant la fin de leurs cours, qui donc galèrent un petit peu à ce niveau-là. Puis ben, les restos U sont quand même beaucoup fermés et ça continue à être cher. Puis il y a un autre souci au niveau des bourses, c'est que des fois, les paliers ne sont pas très, très bien calculés. Ce n'est pas parce qu'on est au minima des bourses que forcément nos parents ont la possibilité de nous aider ou d'ailleurs qu'ils veulent nous aider. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent. Il y a des parents qui n'aident pas leurs enfants dans leurs études. Et donc, ces gens-là sont en difficulté. Et ce n'est pas un choix de l'étudiant et des fois même, ce n'est pas un choix des parents s'ils n'ont pas les moyens. Mais ça existe, quoi.
Selon vous, est-ce que les cours à distance vous paraissent plus inégalitaires ou moins inégalitaires ? Est-ce qu'ils annihilent ces inégalités ou au contraire les aggravent ?
Elles les accentuent pour moi.
Les accentuent ?
Elles les accentuent. Parce qu'on pourrait croire en fait que l'apprentissage d'un professeur, même en amphi, même en TD, ça pourrait se remplacer par quelque chose à distance. Mais on voit bien que ce qui manque aux étudiants, c'est la fait de voir quelqu'un d'humain qui puisse leur expliquer et le contact social pour apprendre tous ensemble. On les voit tous en fait, leur journée se résume à être devant un écran, souvent devant une image où il n'y a rien, d'écouter un cours où personne ne fait attention à qui que ce soit. Et comment vous pouvez être motivé justement et garder, être préservé du décrochage scolaire ou carrément de l'abandon, de la déprime, du suicide, justement quand vous êtes dans ces conditions-là. On pourrait croire justement que c'est une avancée, là où au contraire, moi je pense qu'elle accentue les différences. Un exemple, un jeune qui a juste son ordi et son prof en fait, là, et qui n'a pas d'autres ressources derrière, qui n'a jamais eu accès à l'art, qui n'a jamais eu des parents qui ont fait telle ou telle école, ou son cercle en fait, où il est le premier d'une famille à faire des études, où il n'a pas ses semblables pour pouvoir l'aider, je sais pas, où il parle d'étudiants qui viennent de l'étranger, qui sont seuls ici, et même s'ils ont les cours à distance, il n'y a pas d'égalité là-dedans.
Et dernière question qui est un peu la question, entre guillemets. Selon vous, les études servent-elles toujours à avoir un meilleur avenir, un meilleur travail, ou c'est complètement un mythe ?
Je trouve qu'il y a une perte de valeur en fait pour les diplômes. En fait, avant, le fait d'avoir un Master 2, c'était vraiment, ça t'ouvrait vraiment des grandes portes. Mais en fait, plus on avance, et plus il faut quelque chose d'autre en plus de ton Master 2, vas-y, il te faut un DU, vas-y, il te faut un certificat. Ah, mais il faut que tu passes le TOEFL, le TOEIC. En fait, on est dans une surenchère des diplômes, un peu comme ce qui se passe aux États-Unis, parce que vraiment, aux États-Unis, tu vas dans les subways et tout. En fait, la plupart des gens, en fait, ils ont des bacs plus 5, avec des certificats en plus, avec... on demande toujours plus. Et là, en fait, ça va être encore pire avec le Covid, parce que les diplômes, ils perdent de la valeur. Il y a certains diplômes qui ont été simplifiés, que ce soit le bac et autres, et qui font que l'employeur, quand il va être face à, comme dira déjà la génération Covid, il va se dire, ouais, vas-y, il a un bac, mais ce bac, il vaut rien. Donc, il a intérêt à avoir quelque chose d'autre. Et du coup, ce quelque chose d'autre, en fait, c'est souvent quand tu as plus de moyens, que tu peux payer un certain diplôme, que tu peux, en fait, faire une certaine prépa, que tu as besoin. Donc, en fait, vraiment, il y a une surenchère des diplômes et une perte de valeur de tous les diplômes en général. Et ça s'aggrave avec le Covid.
Univox.
Désormais, je vous propose deux interviews d'enseignants de l'université. Aujourd'hui, nous recevons Clément Chillet, professeur d'histoire antique et directeur de l'UFR Arche à l'université Grenoble-Alpes, qui a bien voulu répondre à mes questions. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien, je vous remercie.
Bon, et si nous rentrions directement dans le vif du sujet ?
Très bien, allons-y.
Allons-y. Donc, estimez-vous que les inégalités du secondaire se transposent-elles dans les études supérieures ?
Alors, oui, je pense qu'elle perdure d'une certaine manière. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. Quand on est à l'université ou dans une grande école ou dans une école privée, on ne s'en rend pas forcément compte parce que l'origine sociale des étudiants paraît plus homogène par rapport au secondaire. Mais en réalité, les inégalités sociales, elles se retrouvent dans les différents pôles que je viens de vous donner. Ce ne sont pas les mêmes profils sociaux qui iront en grande école, en école privée, à l'université, en classe préparatoire, par exemple. Donc oui, d'une certaine manière, elles s'atténuent un peu, mais elles se retrouvent dans les différents pôles de l'enseignement supérieur, à mon avis.
La question que je me posais, du coup, c'est comment elles se représentent au sein de ce monde supérieur ? Si... elles existent toujours, mais légèrement différentes dans le secondaire.
Alors, dans les différents types d'études dans lesquelles on peut s'engager après les études secondaires, c'est là que peuvent se retrouver donc les inégalités. Pourquoi ? Ça vient de plusieurs choses. D'abord parce que selon le milieu scolaire, le milieu secondaire duquel on vient, on n'est pas forcément sensibilisé de la même manière aux différents types d'études qui existent, de poursuites d'études qui existent. Selon le type d'enseignement secondaire dont on vient, bah, on n'est pas forcément préparé au même type de poursuite d'études. Et donc, c'est déjà à ce niveau-là, dans le passage entre les deux, que se logent les inégalités sociales. Et donc après, voilà, on a des élèves qui sont orientés pour devenir des étudiants dans des voies, dans des filières qui sont différenciées socialement. Bien sûr, tout ça doit être nuancé. Évidemment, tout ne correspond pas à ces grandes voies que je suis en train de donner. Mais enfin, malgré tout, c'est comme ça, à mon avis, que les inégalités du secondaire se prolongent dans le supérieur.
Mais du coup, elles sont moins perceptibles ou au contraire plus aggravées, plus exacerbées ?
Alors, elles sont moins perceptibles à l'échelle de chaque établissement, puisque l'origine sociale devient plus homogène. Mais en revanche, quand on regarde à l'échelle générale l'enseignement supérieur à l'échelle nationale, par exemple, quand tous établissements confondus, ces inégalités sociales perdurent. Hein. Vous savez qu'il y a un certain nombre de grandes écoles qui ont lancé des programmes de boursiers, qui ont accentué leurs programmes de boursiers pour ouvrir l'accès aux études qu'elles proposent à des étudiants de milieux plus défavorisés, ben, c'est une preuve que ces inégalités perduraient, alors on lutte contre, mais qu'elles existaient selon les types de voies dans lesquelles on s'engage après le lycée, quel qu'il soit.
D'accord, je vois. Bah, du coup, je vais prendre l'exemple du groupe d'enseignants qui est à l'Arche, que vous connaissez du coup bien,
oui.
Et que je connais aussi, du coup, et j'avais l'impression... Que ces profs, c'est pas une impression, c'est même sûr, ils s'investissent beaucoup pour leurs élèves et on a l'impression que ces inégalités semblent s'effacer. Qu'est-ce que vous pourriez en dire ou qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, les effacer, non, parce que ce serait effectivement dans un monde idéal, on voudrait bien les effacer. En revanche, on essaye de les atténuer au maximum, en tout cas de faire disparaître les problèmes les plus flagrants. Hein. L'université et notre UFR a mis en place un système de prêt de matériel informatique, par exemple. Alors, c'est une goutte d'eau dans ce qui doit être fait en particulier, mais ça a permis à un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants de pouvoir malgré tout suivre des cours parce qu'ils étaient complètement démunis au simple niveau matériel, hein, donc pas d'ordinateur, pas de connexion suffisante. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des inégalités qui ont été révélées par la crise sanitaire, ce qu'on a l'habitude d'appeler la fracture numérique, hein, qui auparavant, parce que tel ou tel pouvait se débrouiller avec les ordinateurs en libre service des bibliothèques, du campus. Maintenant que tous ces équipements sont beaucoup plus difficiles d'accès, la difficulté de connexion, d'accès à un ordinateur a été révélée. Et nous avons essayé de combler un certain nombre de manques avec les moyens que nous avons, qui sont plutôt limités, même s'il y a eu beaucoup d'efforts financiers de fait. Voilà, donc on essaye d'atténuer un certain nombre de ces difficultés sans les supprimer toutes. De même, sur le plan social, il nous est arrivé d'aiguiller telle ou telle situation complexe vers les services sociaux compétents. Ça, c'est évidemment pas du ressort de l'université en tant qu'université, mais des services sociaux attachés à l'université. Pour aider à des situations catastrophiques provoquées ou accentuées ou simplement mises en lumière par la crise sanitaire. C'est vrai que on a essayé d'être le plus attentif possible à garder un lien qu'on a perdu du fait que on ne se voyait plus quand les cours étaient intégralement en distanciel. C'est pour ça qu'on s'est mis aussi à réautoriser, une fois que ça a été possible, hein, le retour des étudiantes et des étudiants avec les conditions de respect, évidemment, des consignes sanitaires, etc. Parce que ce lien, donc, on a essayé de maintenir par ailleurs via les plateformes de cours en ligne, via parfois des appels, etc. On s'est rendu compte que c'était très bien parce que ça permettait de maintenir un lien, mais que ça suffisait pas. Donc nous, on a très envie aussi de retrouver le plus possible ce lien en direct avec vous tous et vous tous dans nos bâtiments, en cours ou en dehors des cours.
Ça, c'est un sentiment partagé pour tous les étudiants, je pense. Et du coup, la question qui est un peu que je préfère sur cette interview, c'est à votre avis, qu'est devenu le mythe de l'éducation et son fameux grand pouvoir nous promettant un avenir et des compétences et un beau métier? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe plus? Est-ce qu'on nous a toujours menti ou...
Ah bon. Alors écoutez, je ne serais pas là si je n'y croyais pas. Donc pour moi, ce n'est pas un mythe. Le savoir, sous toutes ses formes, hein, on parle aujourd'hui de connaissances, de savoir-être, par exemple. Tout ça, ce sont des choses qui s'acquièrent à l'université, mais aussi ailleurs. Les types de connaissances, les types de savoir-faire, les types de savoir-être ne sont pas les mêmes qu'on acquiert dans telle ou telle filière, qu'elle soit universitaire ou non. Bon. Mais c'est quelque chose qui est le bien le plus précieux, puisque c'est ce sur quoi on se construit. Alors, je ne dis pas qu'on commence à se construire dans les études supérieures, bien évidemment. On a commencé à construire sa personnalité, on a commencé à construire ses goûts, son parcours auparavant. Mais c'est dans les études supérieures que vraiment on prend son autonomie sur ce chapitre-là. Donc, l'acquisition de tous ces éléments que je viens de mentionner sont... une brique fondamentale dans la création non seulement d'un avenir professionnel, mais d'une personnalité aussi. Donc l'acquisition par l'éducation, par l'instruction de tous ces éléments me semble absolument fondamentale, une étape fondamentale dans la vie auquel je suis très heureux de pouvoir participer en accompagnant, pas en l'imposant, mais en accompagnant les étudiantes et les étudiants de l'Arche et puis ceux que je peux avoir plus particulièrement en cours.
Donc aujourd'hui, il est toujours nécessaire
de faire des études, un peu comme nos grands-parents nous le disaient, pour avoir un beau métier, etc.
Indéniablement, alors je ne dis pas que le diplôme débouche automatiquement et forcément sur un métier, mais tout ce que vous aurez appris, encore une fois, je ne parle pas simplement de connaissances, hein, je parle de connaissances, de méthodes, de savoir-faire, de comportement, etc. Ce sont des choses qui, à un moment ou à un autre, vous seront utiles dans l'avenir que vous êtes en train de construire. Voilà, ça se matérialise pas en termes de diplôme qui ouvrirait immédiatement la porte, mais ça, c'est une sorte de bagage que vous cumulez petit à petit et qui vous sera utile à un moment donné, parfois dans des univers professionnels qui sont complètement différent à première vue de la filière, du parcours dans lequel vous vous êtes engagé en entrant à l'université.
Donc vous conseilleriez aujourd'hui aux jeunes enfants ou aux ceux qui ne savent pas encore quoi faire, de faire des études?
Mais oui, absolument. Il faut faire des études. On apprend plein de choses. De toute manière, on apprend tout au long de sa vie. Mais la période au sortir du lycée, au sortir de l'enseignement secondaire, c'est un moment où on continue à se former et tout ce qui est acquis à ce moment-là est vraiment un socle pour tout le reste de la vie ensuite.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Romain Geffroy, professeur de géographie en sciences sociales à l'université Grenoble-Alpes, qui a bien voulu répondre à mes questions. Bonjour monsieur, comment allez-vous ?
Bonjour Lucas, ça va bien.
Bon, on peut rentrer directement dans le cœur du sujet alors.
On y va.
Estimez-vous que les inégalités du secondaire se transposent-elles dans les études supérieures ?
Ah oui, d'accord, on y va direct comme ça.
Direct.
Je pense que oui, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on appelle les inégalités scolaires, bien entendu, en fait, se prolongent dans les inégalités universitaires. Et ça peut être ce que je pense et ce que je vois, notamment parce que j'ai eu la chance, moi, durant mon parcours professionnel, d'être à la fois enseignant au collège, au lycée, mais aussi à l'université. Et donc j'ai retrouvé des leviers communs de production et de reproduction de ces inégalités. Donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vu, auquel notamment, malheureusement, en fait, à mon corps défendant, j'ai pu aussi contribuer, puisque en tant que membre en fait de ce système scolaire ou universitaire, on fait des trucs qui participent en fait de la production de ces inégalités. Ça, c'est une forme de vécu personnel, et un vécu plus ou moins réflexif, mais également toute la littérature le montre. Et si on a une littérature sociologique sur la production des inégalités scolaires qui est très abondante au niveau justement du premier et du second degré, on a des éléments qui commencent à se développer sur l'université, et notamment à la suite en fait des travaux pionniers de Bourdieu et Passeron sur les héritiers, sur la reproduction, les reproductions sociales qui passaient par le diplôme à l'université. Donc oui, c'est sûr, on a des formes en fait d'inégalités qui sont très très fortes à l'université, et l'université dans ses modalités de fonctionnement en fait contribue à les reproduire.
Du coup, une question obligatoire dans cette phase que l'on connaît, cette phase joyeuse qui est le Covid. Du coup, est-ce que cette phase du Covid aggrave-t-elle ces inégalités ou les rend-elle moins perceptibles ou au contraire les met-elle sur le devant de la scène ? Il y a plusieurs réponses, je conçois.
Donc alors là, je pense que tout dépend de quelle scène on parle. C'est-à-dire que si on parle de la scène
la scène publique, du moins, on les voit, elles sont
visibles. C'est-à-dire qu'au moment où, dans la scène publique, après quasiment, on va dire, 10 mois, pour être gentil avec eux, après 10 mois en fait de marasme et de crise en fait universitaire, ça y est, en fait, ils ont enfin pris la mesure, enfin une partie de la mesure de ce qui était en train de se jouer. Et ah là là, on va mettre en place des mesures d'urgence. Mesures d'urgence qui sont juste proclamées comme ça devant les médias, impossibles à mettre en place. Mmh. Et on voit bien en fait que derrière les différentes annonces, d'abord simplement de Macron et de Castex, et que là très très tardivement en fait de Vidal, il y a la réalité du terrain qui n'a jamais été prise en compte, et notamment les étudiants comme les enseignants, mais comme l'ensemble des professionnels de l'université, ont jamais été consultés. Et globalement, on a eu face à nous un mépris abyssal. Et donc, si sur la scène politique, ça a mis du temps à advenir, par contre, nous, dans nos pratiques enseignantes, ça a été immédiat. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est vraiment rendu compte tout de suite que le tout numérique, le passage en distanciel, ça avait plusieurs conséquences. La première conséquence que ça avait, c'est que, d'une part, c'était pas juste une modalité différente d'enseignement. C'est-à-dire qu'en gros, on pouvait pas dire enseignement en présentiel, enseignement en distanciel. L'enseignement en distanciel, c'est pas un enseignement. C'est une pratique complètement dégradée, c'est un ersatz d'enseignement, c'est un faire avec les conditions. Mais en aucun cas, en fait, il me semble que l'enseignement à distance peut prétendre être la, au moins similaire ou équivalent en fait à l'enseignement en présence. Et ça c'était la première chose qu'on a vue, nous, très très rapidement. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que là, on avait une reproduction, un creusement des inégalités entre étudiants, mais dès le départ. Et ce creusement des inégalités, c'était à la fois en fait un creusement au niveau des inégalités. Au début, on était vraiment sur des trucs très très matériels du type qui a un ordi, qui a une connexion et qui a un endroit en fait tranquille pour travailler. Et ça, ça a mis très longtemps à être pris en compte. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, la communauté politique et une partie de la communauté universitaire a considéré c'est des étudiants, ils sont autonomes, ils auront tous en fait des bonnes conditions pour travailler. Mais on était très très loin de cette situation-là. Et dans certaines des promos, par exemple, quand très rapidement, nous, on a fait des sondages dès le mois de mars l'année dernière, on avait plus d'un tiers des étudiants et des étudiantes qui n'étaient pas du tout dans des bonnes conditions, juste matérielles pour travailler. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que au-delà des pratiques d'enseignement, cette crise sanitaire, en fait, c'est aussi une crise sociale et qui a frappé en fait, de plein fouet toute une partie des étudiants et des étudiantes, avec le problème des stages, le problème des rémunérations. Et donc, on avait comment on fait, en fait pour continuer à faire cours quand on sait qu'on a... c'est même pas face à nous, c'est qu'on a derrière notre ordinateur toute une partie en fait, des étudiants et des étudiantes qui n'ont juste pas assez à bouffer. Et là se pose en fait, vraiment une autre question terrible, c'est de dire, en gros, c'est quoi le sens de continuer en fait à enseigner dans cette période-là. Et enfin, il y a un troisième vecteur, c'est l'utilisation massive en fait des outils numériques et notamment de Zoom par exemple. L'outil Zoom, ça a été ça a pu apparaître comme une solution et je pense que tout le monde a été un peu content d'avoir ça dans les premiers jours, c'est-à-dire qu'en gros, ça a maintenu un lien. Mais ensuite, on s'est rendu compte à quel point ce truc-là, il était aliénant. Et il était aliénant pour tout le monde, c'est-à-dire que j'ai vu en fait une manifestation, une étudiante à Strasbourg qui avait une pancarte Zoom m'a tué. Mais oui, je pense qu'en gros, clairement quoi, Zoom et les outils numériques en fait d'enseignement à distance sont tellement aliénants qu'ils provoquent en fait de la souffrance et une souffrance qui est importante. Et si la souffrance elle avait vraiment été du côté étudiant et étudiante, on s'est aussi rendu compte que la souffrance elle était aussi du côté des enseignants. C'est-à-dire qu'en gros, parler derrière son ordinateur et puisqu'on avait des problèmes de bande passante, on pouvait pas mettre toujours en fait les webcams et tout, et parler tout seul devant son ordinateur pendant plusieurs heures. Mais oui, ça ressemblait à des pratiques aliénantes et qui étaient très très loin de... Je sais pas, moi j'ai une assez haute opinion de mon métier. Je pense que mon métier il peut m'apporter beaucoup. Il me permet de progresser, il me permet d'apprendre en fait avec et de mes étudiants et de mes étudiantes. Mais là on était plus à ça quoi. C'est-à-dire qu'on était on était vraiment plus là-dedans. Et donc si nous enseignants enseignantes la situation a été compliquée, nous on a gardé notre salaire. Et donc de l'autre côté de l'écran, là moi j'avais face à moi des adultes qui eux étaient dans une situation notamment intellectuelle et économique et sociale absolument terrible. Ouais. Donc oui, et donc ça là-dessus c'est sûr en termes d'accélération de la production des inégalités, ça a été colossal.
J'ai la question, je l'ai bien aimé l'écrire et elle n'a pas vraiment de réponse je pense, mais à votre avis, qu'est devenu le mythe de l'éducation et de son grand pouvoir nous promettant un bel avenir?
Ah. C'est-à-dire qu'en gros, l'égalité de tous et toutes, en fait, dans l'accès à l'éducation et...
On a cette image de l'éducation où nos parents, il faut faire de grandes études, de belles études pour avoir un beau métier, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être qu'un mensonge ou c'est nécessaire de faire des études? Est-ce que ce mythe existe encore, comme ce que nous disaient nos grands-parents, c'est bien de faire des études, sois-en fier?
Alors, je vais essayer de répondre en deux temps à cette question-là, qui est une question qui est éminemment compliquée et qui est un peu piégeuse. Je sais pas, et je vais m'aventurer un peu dedans quand même.
C'est le but.
Parce qu'on est sympa, parce que c'est sympa Radio Campus.
Parce que vous aimez ce genre de questions.
Alors sur la première chose, en fait, je pense que le mythe il a été déconstruit et je pense que maintenant, ce mythe sur notamment l'égalité des chances, le mythe sur l'égalité des chances à l'école ou à l'université. Bon, là, il a pris un énorme coup, en fait. Et je pense qu'une des revendications qu'il faut qu'on ait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, nous, en fait, membres de la communauté universitaire, en fait, on s'en fout de l'égalité des chances, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est une égalité des droits. Et en fait, et c'est ça, en fait, qu'il faut réclamer. Moi, je veux pas une égalité des chances quand je vais, par exemple, je sais pas, me faire opérer à l'hôpital. Je veux pas une égalité des chances. Je veux une égalité, en fait, de droits, d'accès, en fait, à un service public hospitalier de qualité. Et ben là, il faut la même chose, moi, il me semble. C'est-à-dire qu'en gros, la réussite scolaire, elle repose pas sur une chance ou sur une méritocratie individuelle, mais il faut une égalité des droits, en fait, qui prennent en compte cette capacité phénoménale de l'école et de l'université à entériner, en fait, les inégalités sociales. Et donc, face à ça, il me semble que moi, une des revendications qu'on peut avoir, c'est cette égalité des droits. Ça, c'est la première chose. Et donc, oui, donc, ce qui fait que ça, c'est une partie du mythe qui est tombée. Cependant, force est de constater que les premières catégories de personnes qui font face, en fait, aux inégalités scolaires, c'est celles qui croient encore le plus, en fait, en l'égalité des chances, en gros, à l'école. Et notamment, que ce soit, en fait, les élèves ou les étudiants qui viennent des classes populaires, vraiment, on ancré en eux cette image républicaine, en fait, de l'école et de l'université.
Cet Eldorado, un peu.
Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, comme une vraie possibilité, en fait, de réussite, d'émancipation. Je pense qu'il faut le garder, mais il faut qu'on le transforme, en fait, en élément vraiment émancipateur et collectif. C'est-à-dire qu'en gros, la réussite, moi, il me semble qu'elle peut pas être individuelle. C'est-à-dire que la réussite, maintenant, en fait, si on veut vraiment la mettre en place à partir d'une égalité des droits, bah, c'est une réussite collective. Et donc, là, en changeant globalement, en fait, le fonctionnement de l'université, de sortir, en fait, de cette machine extrêmement technocratique, ultra hiérarchisée, pour revenir à des fonctionnements bien plus égalitaires, en fait, de base. Alors après, je dis ça comme ça, mais comment ça peut se traduire ? Ça peut se traduire notamment par des pratiques pédagogiques différentes, par une réappropriation vraiment, en fait, des locaux par les étudiants et les étudiantes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, l'université, en fait, c'est chez eux, c'est pas chez Vinci ou c'est pas chez Bouygues, mais vraiment, en fait, c'est l'université, ça doit appartenir, en fait, aux étudiants, aux étudiantes et au personnel de l'université. Ça, il me semble que c'est aussi un autre moyen, c'est un autre levier, en fait, pour rétablir le mythe, mais pour construire, en fait, une forme d'université différente qu'on voudrait vraiment. Et dans ce cadre-là, il y a des... on arrive, en fait, sur des mouvements politiques ou des mouvements syndicaux qui portent, en fait, des projets d'université différentes. Et ces mouvements-là, il faut qu'ils aient lieu, il faut qu'ils existent, si on veut, justement, en fait, que l'université joue enfin, peut-être même, son rôle vraiment de lieu d'émancipation collective. Puisqu'elle ne l'a jamais été. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, l'université, ça reste, en fait, ce lieu de production et de reproduction des inégalités sociales.
Donc l'université a ce pouvoir de nous promettre un avenir radieux, mais il faudrait que maintenant qu'elle puisse l'utiliser.
C'est ça, oui. Il faudrait qu'on passe, en fait, du rêve à une forme de réalité. Ouais, de réalité en acte. Ouais.
Eh bien, merci, monsieur. Merci d'avoir répondu à ces questions.
Mais de rien.
Univox.
Ainsi, il est clair que les inégalités entre étudiants sont toujours présentes. Et vous avez pu découvrir comment agissent ces phénomènes à travers ces témoignages. Et comment ces inégalités tendent à être de plus en plus marquantes et même cinglantes. La prise de conscience de ces phénomènes peut amener à les réduire. Et dans cette période difficile, l'entraide est la clé ultime pour que nous tous puissions réussir. C'était Lucas de Radio Campus Grenoble pour Univox. Et à la semaine prochaine.